La Boudini Podcast. Documentaire, création sonore, vulgarisation scientifique. Une émission écrite et réalisée par Lounès Kaznab.
Le 24 août 2016, le gouvernement colombien et le groupe armé des FARC concluent un accord pour mettre fin à plus de 50 années de conflits armés. C'est plus de 15 000 soldats et soldates de la révolution communiste colombienne qui déposent alors les armes. Un mouvement révolutionnaire qui a su faire usage du média radiophonique. Dans ce cinquième épisode de Radio Rebelle, nous partons à la découverte de la Voz de la Resistencia, la voix de la résistance, la radio de la guérilla des FARC. Comment une radio peut-elle servir d'instrument de propagande pour mener une révolution ? Comment la Voz de la Resistencia a-t-elle pu s'implanter dans la société colombienne ? Comment l'État colombien a-t-il tenté de lutter contre cette radio ? Et que nous dit cette histoire sur l'importance des médias dans un conflit armé ? Vous commencez à avoir l'habitude, on va démarrer cet épisode par le fait de poser un peu de contexte. Et déjà un contexte géographique. La Colombie est un pays d'Amérique du Sud à la topographie bien particulière. D'une superficie deux fois plus grande que la France, le pays est constitué d'une grande diversité de paysages. Forêt amazonienne au sud, mer des Caraïbes au nord, océan Pacifique à l'est, le tout traversé par la cordillère des Andes. C'est un pays assez montagneux avec des déserts, des plaines, de la forêt, des lacs. Et de nombreuses zones enclavées et difficiles d'accès. Alors là, vous allez me dire, mais pourquoi il nous fait une visite de la Colombie, ce tocard ? Eh bien, on va parler de guérilla, c'est-à-dire de lutte clandestine, et pour comprendre qu'une guérilla ait duré plus de 50 ans, se représenter un pays très dense en forêts tropicales et montagnes escarpées, ça aide un peu à comprendre le dos. Notre histoire du jour commence dans les années 40 en Colombie. Les grands propriétaires colombiens possèdent alors la quasi-totalité des terres agricoles. On voit émerger un mouvement social paysan pour une réforme agraire sous la forme de groupes d'autodéfense paysanne. Puis, c'est la période dite de la violencia, une guerre civile dans les années 50 et un conflit qui fait plusieurs centaines de milliers de morts en Colombie. L'armée est envoyée pour mater les révoltes paysannes qui sont réprimées dans le sang. Des groupes armés se retranchent alors dans certaines zones reculées du pays et forment des zones autonomes plutôt à tendance communiste. Ces zones, elles tiennent à peu près jusqu'au milieu des années 60 où le gouvernement lance une grande offensive. Elles sont pour la plupart détruites, mais les républiques vaincues décident de se constituer en un état-major conjoint. C'est la création en 1964 des FARC, les Forces Armées Révolutionnaires Colombiennes. Leur objectif est la mise en place d'un système communiste, d'une réforme agraire et la prise du pouvoir par la lutte armée. Les FARC, ils utilisent un fonctionnement décentralisé. Ils ont un secrétariat et une équipe dirigeante, mais ils se répartissent en divers fronts à travers les zones rurales du pays. L'histoire des FARC, elle est assez complexe et on va la résumer grossièrement jusqu'à la période des années 2000. On peut dire qu'ils passent par différentes phases de conflit. Des phases de lutte armée, d'expansion, des négociations de paix, avec toujours plus ou moins un échec du processus et un retour à la lutte armée. Et les FARC, ils se distinguent surtout par des attaques sur des cibles comme l'armée ou la police. Et en parallèle de la guérilla des FARC, sont apparus à partir des années 80 des groupes paramilitaires d'extrême droite très violents. On y reviendra un peu plus tard parce qu'ils ont leur importance. Au début des années 2000, les FARC y sont à leur prime. Leur capacité de combat est d'environ 17 000 combattants et combattantes répartis en 60 fronts dans tout le pays, dont des milices urbaines dans les grandes villes comme Bogota ou Medellín. Et la victoire de la lutte armée semble pour la première fois envisageable. Le moment qu'ils choisissent pour donner corps à un média dédié, une radio révolutionnaire, la Voz de la Resistencia.
Voy a la guerra, me llevan muy obligado. Las cosas que deje abiertas, recójanlas con cuidado. Las cosas que deje abiertas, recójanlas con cuidado. No sea que algo se me pierda cuando la vida. El momento que muera, quiero mis cosas en orden. explicaciones son cosas muy complicadas. Me han hablado de la patria y de eso no comprendo nada. Me han hablado de la patria y
la guerrillera Lucero Palmer est alors nommée responsable de la Voz de la Resistencia avec trois objectifs. Élever le niveau culturel de la guérilla, récupérer et perpétuer les traditions rurales colombiennes et éduquer les combattantes. La radio reprend l'organisation décentralisée des FARC. Il y a différentes zones et stations qui émettent depuis des territoires ruraux difficiles d'accès. C'est un outil foncièrement politique, puisqu'il permet de se glisser dans l'intimité des Colombiens et Colombiennes sans crainte de représailles de l'État. Une stratégie qui fusionne avec les traditions orales des habitants ruraux, car la période de la violencia a aussi coïncidé avec l'essor de la radiodiffusion en Colombie. De nombreux haut-parleurs ont été installés dans les villages dès les années 30, permettant de tisser un lien fort entre les populations, analphabètes et isolées géographiquement, et le reste du pays. Mais alors, concernant la programmation, à ses débuts, la radio fait beaucoup de théories marxistes, ce qui la rend un poil ennuyeuse. Mais les FARC comprennent vite que pour capter l'audimat, ils doivent passer par des formats populaires et agréables. Il y a donc une large place consacrée à la musique variée, dansante et révolutionnaire. On y diffuse par exemple un genre bien spécifique, les corridos revolucionarios, pardon pour l'espagnol, traduction les chansons révolutionnaires. Ce sont des chansons composées par des guerrieros après des batailles et des victoires. Ce qui est fort, c'est que les chansons elles varient d'une région à l'autre et elles couvrent ainsi les principaux genres de la musique régionale colombienne, le vallenato, le merengue ou la cumbia. Ça permet à chaque fois un enracinement local. On a les traces de la programmation du bloc oriental des FARC, par exemple. Tous les matins, on a le réveil paysan évoquant des thématiques agricoles. On a des émissions subversives sur l'histoire des luttes sociales en Colombie et en Amérique du Sud. Des émissions sur le féminisme, l'actualité, des émissions à destination des jeunes et étudiants, ou encore sur la culture et le folklore colombien. Les citoyens et citoyennes sont également invités à s'exprimer à l'antenne via des lettres qu'ils transmettent à la guérilla, puis qui sont lues en direct. La Voz de la Resistencia, elle rencontre rapidement un grand succès dans les populations rurales. La radio devient alors un véritable outil de propagande au service de la révolution armée. Comme dans les précédents épisodes, on voit que la radio s'implante dans les différents foyers en s'appuyant sur des registres populaires préexistants. On est ici sur une utilisation du soft power pour convaincre, attirer et légitimer la guérilla. Une démarche à la fois verticale, les idées de l'état-major étant diffusées sur les ondes, et horizontale, de paysan à paysan. Tous ces éléments font de la Voz de la Resistencia un pur objet révolutionnaire.
Como a Superman y al burgués de mi nación les molesta mi canción. Uy, me amenaza, me amenaza, que me castigarán con la ley de extradición. Si me echan el agua un soplón y llegan a darme casa, y llegan a darme casa. Dicen que ya están elaborando la lista donde anunciarán se busca por terrorista, que recompensarán a quien les dé alguna pista, y en ese afán están los bichos imperialistas. Qué tiene, qué tiene mi canto, que le cause espanto a los opresores. Qué tiene, qué tiene mi canto, que le cause espanto a los opresores. Será porque dice la verdad y denuncia la injusticia, toda la inmundicia.
Mais la période de création de la Voz de la Resistencia est aussi une période d'intensification du conflit armé avec l'État et les groupes paramilitaire. Le président Uribe est élu en 2002. Soutenu par les États-Unis, il met en place une politique extrêmement offensive contre le mouvement révolutionnaire. Si les FARC étaient un peu à leur prime en 2000, le gouvernement récupère un avantage stratégique, militaire et tactique certain sur cette période. Les guerrilleros et guerrilleras sont acculés sur de nombreux fronts et perdent une grande influence dans leur fief historique. C'est une période malheureusement extrêmement violente en Colombie. Entre 2002 et 2006, on est à plus de 20 000 homicides par an et plus de 3 millions de personnes sont déplacées de force. Les FARC, dans cette période, augmentent leur prise d'otages. En plus des militaires et policiers, ils commencent à séquestrer des hommes et femmes politiques. Vous en avez sûrement déjà entendu parler, puisque c'est à cette période qu'est enlevée la franco-colombienne Ingrid Betancourt, attirant l'opinion internationale sur le conflit. Les FARC y commettent des exactions, et certaines de leurs actions touchent également des civils. Mais il serait malhonnête de qualifier la guérilla de seule responsable de la violence à la période. L'État, les milices paramilitaires et la guérilla ont commis des crimes. Et les historiens considèrent que plus de 80% des exactions contre les civils sont réalisées par les seuls groupes paramilitaires. On peut par exemple citer l'affaire des faux positifs. Une prime est reversée pour la capture et l'exécution des FARC. Certains civils sont alors arbitrairement arrêtés, déguisés en révolutionnaires et exécutés par les milices. Sur la période du gouvernement d'Uribe, entre 2002 et 2010, les FARC perdent la plupart de leur territoire, 8000 combattants sont tués, 9000 désertent, et de nombreux gradés de l'Orga sont tués pour la première fois. A mi no me asara su pistola. Yo también tengo hambre de matar. Pero a mí esos fierros no me gustan. Yo saco las uñas pa' pelear. Y a mí que me disparen de frente y que sean la puerta de mi casa. Porque yo me muero en tierra mía y a mí de esta tierra no me sacan. Y a mí que me disparen de frente y que sean la puerta de mi casa. Porque yo me muero en tierra mía y a mí de esta tierra no me sacan. La guerre permanente menée par l'État colombien, elle se construit aussi dans le domaine radiophonique. Toujours financé et conseillé par les États-Unis, le président met en place des réseaux de radio gérés par l'armée. Et ces radios, elles vont pas aborder directement des thèmes politiques. Elles vont diffuser des musiques urbaines et commerciales qui séduisent le public. Des radios qui vont même séduire les FARC eux-mêmes. Guerrilleros possédaient tous des récepteurs individuels qu'on appelait des loros, pour écouter la radio avant de dormir. Et la musique commerciale des stations de l'armée, couplée à des campagnes de démobilisation en direct, aurait poussé plus de 3000 désertions par an. Une mainmise radiophonique qui s'accompagne également d'une traque, localisation, bombardement, brouillage, tous les moyens sont bons, les révolutionnaires sont obligés de se déplacer constamment, de construire et garder des antennes dans des zones ultra reculées, avec par exemple des antennes à plus de 3000 mètres d'altitude, des turbines cachées dans des cours d'eau. En fait, c'est une véritable guerre des ondes que se livrent l'État colombien et les FARC. Une guerre que les FARC vont perdre. Sur le plan technologique déjà, où les moyens colossaux accordés à la communication ont supplanté les faibles moyens de la radio clandestine. De plus, l'offensive militaire d'ampleur a empêché les FARC d'obtenir la tranquillité et la continuité nécessaires à la radiodiffusion. Mais c'est aussi une défaite sur le plan culturel. Le marketing de l'armée colombienne a dominé le romantisme révolutionnaire des guerrilleros. Les messages accrocheurs, les musiques urbaines et jeunes des radios officielles ont su capter une audience et une demande plus large chez les auditeurs et auditrices. Dans cet enjeu vital de militariser l'intimité des foyers, L'approche capitaliste a relégué la voz de la Resistencia dans une position de niche. À partir de 2012, les FARC et l'État colombien engagent un processus de paix et de démilitarisation du conflit. L'accord de paix, conclu en août 2016, est définitivement ratifié après un référendum. La fin de la guérilla des FARC marque également la fin de la Voz de la Resistencia et ses différentes antennes après plus de 15 ans d'émission. Dans certaines zones, la radio des FARC se fond avec des radios communautaires locales. Les compétences radiophoniques ne disparaissent pas et tentent d'exister autrement que par la voie des armes. Mais au-delà de la radio, c'est la réintégration des FARC dans la société qui est un enjeu de taille pour le pays. C'est plus de 15 000 personnes qui déposent les armes en 2016. Si un processus de réintégration est lancé dès la signature des accords de paix, 10 ans après, de nombreuses problématiques ne sont pas réglées. De nombreux ex-guerrilleros et guerrilleras vivent toujours dans des camps censés être transitoires. Leur accès à un logement et à un emploi stable n'est pas garanti. Enfin, leur sécurité est compromise, de nombreux ex-combattants ayant été assassinés par des groupes paramilitaires ou des factions rivales. Pire encore, la principale revendication des FARC, contenue dans les accords de paix, à savoir une meilleure redistribution des terres, n'a pas été mise en place. Malgré une politique plus progressiste depuis 2022, la Colombie reste un pays très inégalitaire et fragmenté. Une infime partie de la population possède toujours la majorité des terres et des biens fonciers. Si une partie du mouvement s'est transformée en parti politique légal, certains anciens FARC ont repris les armes à partir de 2019. De plus, si la Voz de la Resistencia s'est éteinte, les radios de l'armée et de la police représentent aujourd'hui plus de la moitié des radios publiques colombiennes. Pensées à la base pour lutter contre l'hégémonie culturelle des FARC, elles sont aujourd'hui un véritable danger pour les libertés de la presse et d'expression. Le conflit continue donc sous d'autres formes et ne semble pas pouvoir être réglé sans une remise en question brutale des raisons de son apparition. Donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Sobre la historia dispara cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante. il est temps de conclure ce cinquième épisode de Radio Rebelle. Il y a de nombreux points qu'on n'a pas évoqués aujourd'hui. On aurait pu parler des autres guérillas présentes sur le territoire colombien, de l'histoire des groupes paramilitaires, les enjeux qui y sont liés, des liens de la guérilla avec le narcotrafic, la structure complexe du mouvement révolutionnaire qu'est les FARC. Voilà, il était compliqué de résumer 50 ans de guérilla dans un podcast. Il y a de multiples écrits, films, reportages et podcasts qui existent sur ce sujet. Je vous en mets quelques-uns en description, je vous invite à les consulter si ça vous intéresse. Aujourd'hui, je me suis vraiment concentré sur l'axe radiophonique de la guérilla. La radio des FARC, c'était une radio révolutionnaire dans sa pratique même, clandestine, tenue par des membres de la lutte armée, qui a su s'installer dans de nombreuses localités colombiennes, malgré des conditions difficiles et parfois rocambolesques. Mais aussi dans sa forme, par l'utilisation d'éléments de la culture populaire, par une propagande active pour la défense des droits des paysans colombiens, et par la volonté de donner accès à la culture militante tout en donnant la parole aux citoyens et citoyennes eux-mêmes. Il est intéressant de voir qu'à travers les époques et les régions, de l'Italie des années 70 à la Colombie des années 2000, on retrouve des manières similaires de mener une pratique radiophonique engagée et révolutionnaire. La réponse de l'État colombien, autant sur le plan de la com que militaire, démontre bien l'enjeu énorme de l'hégémonie des pratiques culturelles dans un conflit armé. D'un quasi-monopole des FARC, l'État a su mobiliser des codes populaires pour séduire un large auditorat jusque dans les rangs des combattants. L'État colombien et les FARC ont mené une véritable guerre des ondes en parallèle de la guerre armée. Une guerre gagnée par l'État qui impacte encore fortement le paysage radiophonique colombien. Si cette bataille s'inscrit dans un cadre et une géographie bien particulière, celle de la société colombienne des années 2000, elle témoigne de l'importance de proposer des alternatives aux récits étatiques et policiers. Si on transpose à ce que l'on connaît chez nous, on voit bien que l'extrême droite a de plus en plus de facilité à imposer ses récits. Ça a été le cas lors de la mort de Quentin Derenque, un néo-nazi présenté comme un jeune homme de 23 ans sauvagement assassiné. Seul le travail de certains médias de qualité a pu contrecarrer ce récit mensonger balancé sur tous les plateaux télé. Et je pense qu'il est important de continuer à créer et défendre des espaces où ce sont les citoyens et les citoyennes qui ont la parole. Les médias indépendants sont un véritable garant de la démocratie en France, les chiens de garde des plateaux télé et de la presse bourgeoise ne seront jamais les alliés du peuple. Payés par les milliardaires, ils sont et seront toujours à leur service. Alors, continuons à soutenir les initiatives qui n'émanent pas des grands. Si les radios associatives, les journaux indépendants ou les collectifs militants sont attaqués aujourd'hui, c'est bien qu'ils représentent un contre-pouvoir efficace. Voilà, c'est sur ces mots, ma foi, bien sympathiques que se termine ce cinquième épisode de Radio Rebelle. Afin de préserver mon envie, les épisodes sortent désormais tous les deux mois. Je vous donne donc rendez-vous au mois de juin pour le sixième et dernier épisode consacré à Radio Klaxon, la radio pirate de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Il va y avoir encore pas mal de choses à dire et on pourra allègrement taper sur le Parti Socialiste. Je sais que ça vous fait plaisir, donc ce sera un bel épisode que j'ai hâte de vous présenter. Si vous ne voulez rien rater des sorties et des actualités de La Boudini Podcast, eh bien rendez-vous sur ma page Instagram, La Boudini Podcast, tout simplement. Voilà, à bientôt, d'ici là, prenez soin de vous.
La Boudini Podcast. Documentaire, création sonore, vulgarisation scientifique. Une émission écrite et réalisée par Lounès Cazenab.
Attention, cet épisode traite du génocide rwandais. Il contient des récits de violences, meurtres, violences sexistes et sexuelles commises dans le cadre du génocide des Tutsis au Rwanda en 1994.